C'est un peu de mathématiques, mais en gros, l'idée hier soir, c'était de se poser la question, comment je vais lire la Bible? Est-ce que je vais la lire de façon littérale ou est-ce que je vais la lire de façon allégorique, en essayant de voir des images? Et puis on s'est intéressé aux prophéties qui se sont accomplies déjà. Par exemple, on a parlé de la venue de Jésus-Christ, de la crucifixion de Jésus, et on a vu qu'elles se sont accomplies de façon littérale. D'accord? Et donc on a pu poser ce qu'on appelle, nous, les théologiens, un système herméneutique qui nous permet de dire que si des prophéties passées se sont accomplies de façon littérale, les prophéties qui ne se sont pas encore réalisées pour l'instant vont s'accomplir de la même manière, de façon littérale. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, par crainte de dire que Jésus va revenir, que Jésus va régner pendant 1000 ans sur la terre, ben disent, bon, on va allégoriser, on va essayer de trouver une leçon là-dedans, et en fait, Jésus va pas vraiment régner sur la terre. Pourtant, moi, je pense que Jésus, un jour, posera ses pieds sur le mont des Oliviers et fera cette guerre au monde, c'est ce qu'on appelle la bataille d'Armageddon, instaurera son royaume, mais ça, on verra ça un peu plus tard. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un peu de l'enlèvement de l'Église. Il y a une vidéo que je vous montrerai demain. Il se peut que peut-être dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans 15 minutes, d'un seul coup, pas. Il y a la moitié de la salle, ou j'espère toute la salle, qui sera plus là, parce que Jésus-Christ va enlever un jour son Église. Et on va un peu parler de cela, parce qu'il y a plusieurs positions aussi dans ce débat, dans cette idée de l'enlèvement de l'Église. Donc j'espère que ça ne va pas être trop compliqué. Ça sera un peu moins compliqué que hier, mais comment dire, il y a trois positions qu'on va voir, même quatre, et il va falloir argumenter. Parce que si je dis, par exemple, que je suis enlevé avant la tribulation, on va rentrer dans le détail tout à l'heure, c'est une chose de le dire, mais il faut aussi avoir des arguments. Il faut défendre sa position, parce que quelqu'un d'autre a une autre position et va aussi défendre sa position. Et donc, on va voir un petit peu ces arguments, on ne va pas rentrer trop en profondeur, mais quand même, on va essayer de voir la différence. Et on va commencer, comme hier soir, avec un postulat de départ, hein. En parlant de cet enlèvement de l'Église et du retour de Jésus-Christ, c'est une promesse que le Seigneur nous a faite. Et Jésus a fait beaucoup de promesses. Il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il est avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde? Mais j'espère bien, en tout cas, hein. C'est une promesse, et quand Jésus promet, c'est qu'il est vraiment là. Par contre, il a promis un jour que, à ses apôtres, qu'il reviendra, et qu'il viendra enlever l'Église, et qu'il viendra aussi venir sur cette terre instaurer son royaume. Si Jésus a promis quelque chose, cela va absolument s'accomplir. Le monde s'en fiche de Dieu, le monde veut plus de religion, le monde veut plus de la foi, mais Jésus a promis quelque chose et ça va absolument s'accomplir. Et avant d'aborder un peu tout ce débat, moi je voulais, parce que ça va être important, vous ne comprendrez pas tout de suite, mais tout à l'heure, vous comprendrez plutôt pourquoi je fais ça, parler un peu de ce vocabulaire eschatologique. Alors, on peut, de temps en temps, je vais lire, hein, vous pouvez me suivre dans le petit carnet, hein. Le vocabulaire a son importance car il devient une source d'arguments pour certaines positions. Ils vont employer des mots et vont dire, ces mots disent qu'on est enlevé avant, pendant, au milieu de la tribulation, hein. Donc, quatre mots existent en fait en relation avec les événements eschatologiques si vous prenez le temps de lire la Bible. Alors, dans le français, vous ne le verrez pas, parce que le mot est traduit en français, mais il faut aller étudier le grec pour cela. Il y a quatre mots. Il y a le mot apocalypsis, on va en parler tout à l'heure, parousia et épiphanéa. Puis il y a un petit mot en plus, mais qui n'est pas très important. Mais ces trois mots sont employés dans la Bible pour parler et des fois de l'enlèvement de l'Église et des fois du retour de Jésus-Christ, qui sont deux événements distincts. On va voir ça aussi. Quand on s'intéresse au premier mot, apocalypsis, on rappelle quoi ça? Apocalypse. Apocalypse, hein. Le mot signifie littéralement ôter le voile. C'est ça un peu l'Apocalypse, hein. Dieu a révélé à Jean certaines choses, il a ôté un voile pour nous aujourd'hui, pour essayer de comprendre certaines choses. Il faut dire que quand on lit l'Apocalypse, le voile est ôté, mais on n'a pas encore tout compris non plus. Mais comme on l'avait dit hier, lire Apocalypse sans lire par exemple Daniel 9, comme on a vu hier, pour poser le système eschatologique, sans lire Ésaïe, sans lire Ézéchiel, sans lire tous les prophètes de l'Ancien Testament, c'est très difficile de comprendre. Donc, ce premier mot dit enlever le voile, et donc avant l'inauguration, par exemple, d'une statue, on recouvrait le chef-d'œuvre d'une toile, et au moment de la cérémonie, de l'inauguration, on enlevait en fait ce voile. Je sais pas, vous avez déjà vu ça, on fait ça pour les mairies des fois ou pour les statues, on enlevait tout simplement le voile et on découvrait là en fait la statue ou l'objet. Ce sera exactement la même chose un jour. Jésus va venir sur la terre, on va enlever une fois pour toutes le voile. Aujourd'hui, ça va aller encore plus vite parce qu'on a des technologies qui permettent d'aller jusqu'à New York ou je sais pas, pour dire Jésus est effectivement arrivé En Israël, il a posé ses pieds sur le Mont des Oliviers. Ça va faire bizarre sur Facebook, hein, comme j'ai dit hier. Ça va fuiter, à mon avis. Mais aujourd'hui, c'est faisable. Mais l'idée, c'est que quand il viendra, un voile va être enlevé à toute l'humanité. Et là, les gens qui sont incrédules vont pas pouvoir dire, c'est pas Jésus. C'est Jésus. Il est là. Il est en face. Il est aux infos. Je sais pas comment ça va se passer, mais il est là. Et là, on pourra plus dire, non, Jésus n'existe pas ou Jésus ne reviendra pas. Donc ce premier mot, apocalypsis, ou l'apocalypsis de Jésus-Christ, c'est en fait la découverte pour le monde de ce roi qui est aujourd'hui invisible, mais qui va paraître en tant que roi visible. Jésus est le roi aujourd'hui, mais il ne règne pas encore physiquement. Ça nous rappelle un peu David à l'époque, qui à un moment était parti parce qu'on l'avait chassé. Il était roi, mais n'avait pas encore de règne. Un jour, Jésus viendra, posera ses pieds, et cette apocalypsis de Jésus va faire découvrir au monde le roi des rois, et il imposera son royaume sur la terre. On voit un autre mot qui est parousia. Le nom parousia dérive en fait d'un autre mot qui est en grec, qui est parémi, qui signifie être présent. Il désignait l'arrivée, par exemple, officielle d'un empereur, d'un roi ou d'un gouverneur dans une ville ou dans une province. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Hein. Cet événement exigeait plusieurs mois de préparatifs et la levée d'impôts spéciaux. On se plaint de nos impôts aujourd'hui, hein. Enfin, je dis ça comme ça. Parfois, les pays décrétaient de dater une nouvelle ère, même à partir de cette parousie de l'empereur. Quand un empereur arrivait, c'était quelque chose de vraiment extraordinaire. Et tout le peuple s'affairait, faisait des impôts, préparait comme s'il y avait quelque chose d'extraordinaire qui allait se passer. C'est comme, quelqu'un disait, un auteur, c'est comme si avec cette venue, un ensemble de nouvelles valeurs avait surgi. Et quand Jésus fera cette parousie, quand on parle de la parousie de Jésus, ça sera un événement qui va marquer la venue d'un roi, mais aussi d'une nouvelle ère. Parce que quand Jésus va instaurer son royaume sur la terre, il est dit dans le psaume et dans d'autres passages qu'il va juger avec une verge de fer. Alors on se plaint aujourd'hui de la corruption et tout ça. Pendant 1000 ans, il n'y aura plus jamais de corruption. Vous pouvez imaginer ça ? Ça nous fait réfléchir, nous, déjà aussi. Parce que souvent, on voit les grands politiciens et tout ça. On doit aussi se regarder nous-mêmes, des fois. Et Jésus régnera là, avec une verge de fer, et une nouvelle ère va être instaurée sur la terre. Et personne ne pourra aller contre cela. On verra ça un peu plus tard, peut-être demain, pour expliquer un peu plus en détail. Quand on voit le troisième mot, épiphanéa, le mot épiphanéa dérive du verbe phanéo, qui signifie apparaître, ou d'un autre mot en grec, phos, qui signifie en fait la lumière. L'épiphanie d'un objet correspond donc à son apparition visible au moyen d'un rayon lumineux. Et donc le mot épiphanès était également utilisé pour désigner l'apparition glorieuse et majestueuse d'un roi. Ça, on voit dans la littérature grecque, hein, Platon et d'autres, par exemple. Donc les mots de cette famille sont utilisés seulement dans les épîtres pour désigner en fait la manifestation glorieuse de Dieu et de Jésus-Christ. En résumé, l'épiphanie de Jésus, c'est l'apparition visible et glorieuse du roi des rois. Vous savez qu'il était la lumière qui est venue dans ce monde. Cette fois, il sera la lumière éclatante et qui va éclairer absolument tout le monde entier. Et plus personne pourra dire « j'ai envie de vivre dans les ténèbres ». Ils seront mis à la lumière de Jésus-Christ. Tout ce qu'on a dans notre cœur, tout ce qu'on a été, ben, on sera en face de Jésus et il saura tout. Il sait déjà tout aujourd'hui, il faut bien s'en souvenir. Mais à ce moment-là, tout le monde devra fléchir le genou devant lui. Plus personne pourra s'opposer à lui. Vous imaginez ? Si aujourd'hui vous résistez dans votre cœur, parce que bon, vous hésitez ou parce que vous ne voulez pas de Jésus-Christ dans votre vie, à un moment, vous serez obligé de fléchir le genou. Mais il y a deux façons de fléchir le genou. L'accepter comme un roi et l'adorer. Et il y a l'autre manière, il y aura beaucoup de gens qui sont comme ça, on va les forcer à fléchir ce genou et ça sera sous la force et la fin, ça sera la mort. Donc il y a à réfléchir. Hein. On parle peut-être d'eschatologie, mais quelque part, ça me concerne aussi moi. Et comment je vais me présenter devant Jésus-Christ un jour. Et puis il y a un quatrième mot, hein, que j'avais pas mis au début, qui est phanéro, qui signifie rendre clair et faire connaître. C'est donc rendre manifeste ou visible ce qui a été caché. Parce qu'aujourd'hui, ben, Jésus, vous le voyez, vous avez déjà vu Jésus ? Quelqu'un a déjà vu Jésus ? Moi, je l'ai pas vu. On vit par la foi actuellement. Mais un jour, on le verra. Et on le verra face à face. Donc c'est donc rendre manifeste ou visible ce qui était caché jusqu'à présent. C'est encore manifester soit en parole, en acte, ou de toute autre manière ce qui a été inconnu afin de le rendre réel. Finalement, cette phanéro désigne le fait que Jésus-Christ sera rendu visible et connu de tous. Ça, c'est intéressant. Donc vous voyez, quatre mots qui parlent en fait de la venue de Jésus. Parfois, il est employé pour le retour de Jésus, parfois pour l'enlèvement de l'Église. Mais le mot les mots ont une signification au moins globale, c'est que ce qui est caché aujourd'hui, c'est-à-dire ce Jésus qui vit actuellement dans le ciel, à la droite de son Père, qui soutient son Église, qui nous aide tous les jours, mais qui n'est pas cru par le monde aujourd'hui, un jour sera connu d'absolument tout le monde. Et on ne pourra pas dire qu'il n'existe pas si vous l'avez devant vous. On est bien d'accord. Il faut vraiment être incrédule à un point. Et le monde entier... Enfin, moi, je me réjouis de ce jour-là, parce que je me dis, beaucoup de gens se moquent de moi parce que je suis chrétien. Ils ne croient pas, ils rigolent, et puis ils vous raillent. Hein. Et un jour, je dirai, mais voilà, il est là, mon sauveur. Il est juste devant toi. Et là, ils ne pourront plus rien dire. Ça sera un peu ma petite victoire pour moi, quelque part. Alors, vous, je ne sais pas comment vous le voyez, mais ça sera ma petite victoire à moi. Hein. Mais pas par vengeance, mais c'est plutôt par tristesse de voir des gens, des fois, qui sont incrédules et qui refusent tout simplement cela. Si j'ai voulu faire cette étude de mots, c'est parce qu'on va voir un peu les petites observations. Hein. Il n'est pas toujours facile, en fait, quand on étudie les textes où se trouvent ces mots, de trouver l'application eschatologique. Est-ce que le texte parle absolument du retour de Jésus-Christ à la fin de la tribulation, ou est-ce qu'il est en train de nous parler de l'enlèvement de l'Église ? C'est difficile. Il faut analyser. Une deuxième observation, c'est que le mot parousie concerne à la fois, des fois, l'enlèvement de l'Église et parle en même temps du retour de Jésus. Il confond des fois les deux événements qui sont distincts, ça on va le voir aussi, mais c'est très difficile de savoir duquel il parle. C'est pour ça que c'est important d'étudier le vocabulaire. Troisième observation, c'est que le mot apocalypsis, par exemple, et épiphanéa, deux mots qu'on vient d'étudier, ne semblent jamais désigner l'enlèvement de l'Église. Et parfois, on peut l'employer dans ce sens-là. Ou l'emploi des trois mots peut, dans certains cas, être inclassable. Hein. Je me suis amusé à faire un tableau, à essayer de mettre tous les versets qui existent, et essayer de les mettre dans des cases, et à des moments, vous ne pouvez pas. En étant honnête, hein, j'ai dit hier qu'on ne va pas aller plus loin que ce que dit la Bible. Moi, j'essaie d'être très honnête avec la Bible, de ne pas exagérer. Eh bien, quand on est honnête, des fois, c'est très difficile de savoir s'il parle de l'enlèvement ou s'il parle du retour de Jésus. Alors là, on ne peut pas le voir, mais il faut l'étudier. Hein. Un jour, Adrien va vous faire ça, d'accord ? Il est content. Donc voilà un peu pourquoi je fais ça. C'est parce que vous allez voir que tout à l'heure, dans l'argumentation de l'enlèvement de l'Église et des théories qui existent, des gens vont employer le vocabulaire pour dire « ça veut dire absolument ça ». Et en fait, là, je démontre que un mot ne peut pas, comment dire, revendiquer une position qu'on va voir tout à l'heure. C'est ça, en fait, l'idée. On est obligé de passer par là, hein, je suis désolé. Et donc, pour terminer, la distinction des deux événements se fera donc mieux par le contexte des versets étudiés que par le vocabulaire. Je peux employer le vocabulaire pour argumenter ma position eschatologique, mais l'idéal, avant de vouloir absolument imposer cela, c'est de quand même étudier tout ce qu'il y a autour et à la lumière de beaucoup d'autres textes qui sont dans la Bible. Beaucoup de gens prennent juste un verset et le tordent parce qu'ils ne connaissent pas le reste de la Bible. Il y a beaucoup de gens qui font ça, hélas. Il faut connaître toute la Bible quand vous voulez, hein, j'ai dit hier, étudier l'eschatologie. Deuxième chose qu'on peut voir, comme on disait qu'il y a l'enlèvement qui est enseigné dans la Bible, l'enlèvement de l'Église, et puis il est aussi enseigné que Jésus va revenir sur la terre à un moment. Et donc on va voir un peu la différence, les événements, les protagonistes un petit peu, et j'ai fait un petit tableau pour voir que effectivement c'est pas deux événements semblables et qui sont vraiment distincts l'un de l'autre. Hein. Par exemple, quand on s'intéresse aux protagonistes, on voit que pour l'enlèvement de l'Église, les morts en Christ vont ressusciter et l'Église, nous, enfin j'espère qu'on sera encore là, hein, moi j'aimerais bien faire partie de l'enlèvement, hein, ben nous on sera aussi enlevés. Hein, ça concerne donc l'Église. Par contre, pour le retour de Jésus-Christ, on voit que les protagonistes, Jésus revient avec les anges, hein, il va revenir avec les armées qui sont dans le ciel, alors certains pensent que l'Église va venir aussi avec lui, c'est pas toujours d'accord, mais bon, et tous les saints avec lui. Donc il y a une différence entre au moment où Jésus va enlever l'Église, où seule l'Église est concernée par l'enlèvement de l'Église, et le moment où Jésus va poser ses pieds à Jérusalem, où il va venir avec toute l'armée de ses anges, je ne sais pas si vous avez imaginé, avec les saints, et toute son armée qui va arriver là. Ça va faire un sacré bazar, on va dire. Donc c'est deux événements qui sont distincts. On peut voir les accompagnateurs. On a vu tout à l'heure que pour le retour de Jésus, les anges l'accompagnent. Par contre, quand on étudie les textes qui parlent de l'enlèvement de l'Église, il n'y a pas d'ange qui les accompagne. Donc on peut distinguer, là encore, les deux événements. Toujours en tant qu'accompagnateur, on peut voir que l'enlèvement de l'Église concerne que l'Église. Par contre, le retour de Jésus concerne aussi tous les saints. Il y a une distinction. Il faut savoir que, on va en parler un peu plus tard, mais il y a plusieurs résurrections, on pourrait dire. Il y a l'enlèvement de l'Église, c'est une résurrection. Il y a la résurrection des saints de l'Ancien Testament, Abraham, David et tout ça, ceux qui sont avant l'Église. Et puis Apocalypse 20, verset 4 nous rappelle qu'il y a aussi la résurrection des martyrs de la tribulation. Donc il y a une seule résurrection, mais faite en plusieurs étapes. Nous, on va voir ça un peu plus tard. Concernant les jugements aussi, on peut voir des distinctions. Pour l'Église, si vous êtes sauvé, si vous êtes né de nouveau, c'est-à-dire que si vous avez accepté dans votre cœur que vous êtes pécheur, que vous avez demandé pardon pour vos péchés, vous avez accepté que Jésus-Christ est votre sauveur, qu'il n'y a que lui qui peut vous sauver, alors on dit qu'on est né de nouveau selon la Bible. Et on devient chrétien. Et donc je fais partie aussi de l'Église. Et à partir du moment que je fais de l'Église, je serai enlevé. Mais je ne passerai pas par le jugement. Ceux qui seront jugés selon la Bible, c'est ceux qui ont refusé Jésus-Christ dans leur vie. Et le seul jugement qu'il y aura, c'est d'être éloigné pour l'éternité de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, vous avez encore le temps, je ne sais pas, je vous connais pas, donc je me permets de le dire, mais vous avez encore le temps de réfléchir à cela. Parce que ça peut arriver très vite, très vite. Personne n'est maître de sa vie. Mais quand l'Église sera enlevée, elle ne sera pas jugée, on sait qu'il y a un tribunal de Christ où on ne remettra pas en question votre salut, mais simplement, comment j'ai vécu dans ma vie, dans 2 Corinthiens 5, 10, il dit, selon ma manière d'avoir vécu ma vie chrétienne. Jésus-Christ a donné sa vie pour moi. Il est allé à la croix. Je ne méritais absolument pas ça. Quelqu'un a mérité qu'il meure pour vous ? Personne n'a mérité ça, à cause de notre péché. Pourtant, il l'a accepté. Et il est allé jusqu'à la croix et il m'a sauvé. Mais une fois que j'ai été sauvé, il me demande aussi de pratiquer des œuvres, de travailler pour lui, par reconnaissance, pas par servilité. Mais je ne sais pas, quand quelqu'un vous a sauvé, je ne sais pas, d'un accident, vous lui dites merci, vous vous barrez. Pas de reconnaissance, c'est ça ? Vous êtes comme ça ? C'est terrible alors, hein, parce que c'est pas sympa. Mais je pense que quelqu'un qui est sauvé est reconnaissant de ce que Jésus-Christ a fait pour lui et a envie de le servir. Et on sera évalué devant ce tribunal de Christ selon ce que l'on a fait. Alors il y a des récompenses, on ne sait pas très bien ce que c'est, mais il vaut mieux avoir une bonne récompense qu'une mauvaise récompense. On est bien d'accord. On verra bien. Et puis concernant le retour de Jésus, Jésus vient pour juger les nations et pour juger Israël. Et là-dedans, ils seront tous convoqués à un moment, et selon certains critères qu'on va voir un peu plus tard, certains vivront, certains mourront. Ça sera aussi radical que ça. Alors souvent, on parle de Jésus comme le gentil petit Jésus, plein d'amour, etc. Oui, il est plein d'amour, mais il est aussi juste. Et un amour sans justice, ça n'existe pas. Alors, Jésus est bon aujourd'hui, il laisse encore la patience, comme on en a vu hier soir, le temps de réfléchir à toutes ces choses-là, mais à un moment, il sera aussi le juge de ce monde. Et lui, il ne fera pas de pitié. Il n'a pas de sentiment comme nous. Concernant la colère de Dieu, la chronologie, le festin de l'agneau précède le retour d'Apocalypse. On va voir un peu plus en détail les événements. Mais quand l'Église va être enlevée, on sera dans le ciel. Et à un moment, il parlait de ce festin et les noces de l'agneau où on va être tous autour de Jésus-Christ, avec Paul, tous les personnages de l'Église. Vous imaginez être à côté de Paul ? Ah si, bonjour Paul, tu vas bien ? Alors, tu me racontes un peu tes voyages ? Ça va être extraordinaire, non ? Et là, tous les chrétiens, toute l'Église va être réunie autour de Jésus-Christ et on va faire ces noces de l'agneau. Mais ça précède le retour de Jésus-Christ. Et ça nous fait encore l'idée qu'on doit distinguer l'enlèvement et le retour de Jésus-Christ. Par contre, il y a un autre festin qui est un peu moins drôle. C'est ce qu'on appelle Armageddon. Je vous ai déjà entendu parler, j'imagine. C'est le grand festin de Dieu, mais là, c'est plutôt un carnage dont on est en train de parler. Donc il y a un festin pour l'Église, mais là ça va être sympa. Par contre, il y a le carnage quand il va revenir, et là ça va vraiment pas être sympa pour ce monde-là. Maintenant, vous savez, le monde, même quand ils verront tous les fléaux qui vont s'abattre sur la terre, on voit ça dans l'Apocalypse, même en sachant que c'est Dieu qui va le faire, ils vont dire je veux pas de Dieu, je veux pas de Dieu. Vous imaginez, je sais pas si, moi j'arrive pas à imaginer la taille de Dieu ou la grandeur de Dieu, mais moi je me sens tout petit, enfin, dans l'univers, hein, je me sens tout petit. Et moi, j'ai le culot de dire à ce grand Dieu, des fois, je veux pas de toi. On est quand même gonflé, des fois, non ? On est quand même orgueilleux. Mais le monde sera comme ça face à Dieu. Et ça, c'est terrible. Concernant la colère de Dieu, l'Église va pas subir la colère de Dieu. Ça sera un argument qu'on va défendre tout à l'heure. Quand on parle de la colère de Dieu, vous vous souvenez la dernière semaine de Daniel ? C'est la période de tribulation. Hein, et c'est ce qui est aussi désigné comme la colère de Dieu. L'Apocalypse parle justement de cette période d'une semaine, qui est de 7 ans, où la colère de Dieu va se déverser sur le monde, au travers des trompettes, au travers des sceaux, au travers d'un tas de cataclysmes. Mais il est dit dans la Bible, dans 1 Thessaloniciens 5, 9, que l'Église ne connaîtra pas cette colère. Sympa, non ? Par contre, le monde va connaître cette colère parce que Dieu... en théologie, on parle aujourd'hui de la colère de Dieu à l'égard de l'humanité et à l'égard du pécheur. C'est-à-dire que Dieu est en colère contre celui qui pêche, qui est pécheur, qui ne s'est pas repenti. Mais est-ce que vous avez déjà vu la colère de Dieu ? On ne le voit pas. On le sait, on l'enseigne, mais personne ne l'a vu. Par contre, dans Apocalypse, ça va devenir visible, cette colère de Dieu. Et elle va être terrible, terrible. Donc, quand Jésus va revenir, il va aussi exprimer cette colère de Dieu à l'égard de ceux qui sont pécheurs. Il y a un aspect visuel hein, qu'on peut comparer là. L'Église a enlevé en un clin d'œil. Boum ! D'un seul coup, il n'y a plus rien. Ça va faire comme ça. C'est là un clin d'œil. Bon, les gens vont imaginer que vous êtes en train de conduire un avion et que vous n'êtes pas chrétien ou que vous êtes dans une voiture avec un non-croyant ou avec un croyant et d'un coup, pouf, il est où ? Ça va faire bizarre, hein ? Il va y avoir des accidents, à mon avis. Hein. Parce que si vous êtes chrétien et que vous lâchez votre voiture sur l'autoroute, ça va faire chaud. Ça va être un vrai bazar. Donc l'Église va être enlevée d'un seul coup. Par contre, quand Jésus va venir, il est dit « Tout œil le verra ». Le monde entier verra Jésus-Christ. Alors, il faut se remettre à l'époque de Jean ou à l'époque de l'Église primitive. « Tout œil le verra sur le monde. » Comment c'est possible ? Maintenant, c'est possible, non ? Il y a un événement, tout le monde est au courant en 30 secondes. C'est beau quand même, la Bible, quelque part. Elle prophétisait, sans prophétiser, elle nous disait certaines choses. Concernant les circonstances, entre l'enlèvement et le retour, lorsque l'Église sera complète, hein, il dit dans Romains 11, 25, au moment où l'Église est au complet, c'est-à-dire au moment où Dieu a décidé, maintenant ma patience, c'est fini, à ce moment-là, l'Église sera enlevée, il est dit dans 1 Thessaloniciens 4, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Je ne sais pas si on entendra une trompette avant, mais si vous entendez une trompette, posez-vous une question. Il y a peut-être... La trompette, c'est un signe de ralliement, c'est un signe de départ, souvent, hein, dans l'Ancien Testament, on va revoir ça. Ça veut dire que, ça y est, on va partir. Mais il faut se poser la question aussi, qu'est-ce que je serais en train de faire à ce moment-là ? Eh oui, hein, qu'est-ce que je serais en train de faire ? Si je suis dans le péché, par exemple, et d'un coup je suis enlevé, et je me retrouve devant Jésus-Christ, ce sera un peu honteux, non ? Alors, on n'est pas parfait, on est toujours pécheur, nous dit la Bible, mais on ne pratique plus le péché. Mais moi, ça me fait beaucoup réfléchir. Ça nous pousse à vivre aussi la sainteté au quotidien, comme on peut. Par contre, pour le retour de Jésus-Christ, il y aura un temps de détresse, un grand temps de détresse, c'est l'Apocalypse, hein, il est dit dans Marc 13 aussi. Et il y aura juste avant, on va en parler un peu plus en détail demain, mais il y a la venue de l'homme impie, ce qu'on appelle l'Antichrist, quelqu'un qui va régner sur ce monde. Alors souvent, on voit quelqu'un de méchant, mais ça sera juste un homme politicien qui va prendre le pouvoir de ce monde. Hein, et il y a une mondialisation qui se met en place, l'Europe est en place, un tas de choses se mettent en place pour pouvoir gouverner presque le monde. Et cet Antichrist va venir et va prendre le pouvoir, on en parlera plus demain. Et on voit aussi que Jésus reviendra quand Jérusalem sera envahie, parce qu'il y aura des guerres juste avant. Quand l'Église est enlevée, il n'y a aucune bataille, c'est fait comme ça, et puis les choses continueront, on rentrera dans la tribulation certainement à ce moment-là. Par contre, quand Jésus reviendra, j'ai oublié un petit N sur votre carnet, c'est Armageddon, hein, rien à voir avec le film de Bruce Willis, rien à voir, c'est une guerre terrible, un carnage comme je pense que la Terre n'aura jamais vécu, mais voilà la différence entre l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus-Christ. Concernant les directions, par exemple, quand l'Église va être enlevée, Jésus va descendre des cieux, mais va s'arrêter sur la nuée. Il ne va pas descendre jusque sur la terre. Et l'Église va rejoindre, en fait, Jésus-Christ. Et ensemble, nous allons partir vers le ciel. Par contre, quand Jésus va revenir sur la terre, le retour de Jésus, il vient du ciel, il posera ses pieds sur la terre. C'est donc deux manières de venir différentes. Vous avez compris ? Ça va ? Suivez ? Ensuite, les résurrections. L'Église ressuscitera lors de l'enlèvement de l'Église. Hein, quand l'Église sera enlevée, nous allons aussi ressusciter et nous allons avoir un corps glorieux. Alors moi, je me réjouis de ça parce que j'ai souvent mal au dos. À ce qui paraît, on n'aura plus de douleur. Ça vous intéresse ? Il y a beaucoup qui ont mal au dos. Hein, c'est intéressant. Mais c'est ce qui nous attend et c'est une promesse aussi du Seigneur. Ah bon, j'attends pas ça pour mon corps, je m'en fiche, moi j'ai envie de voir le Seigneur. Mais on se comprend bien. Mais on va ressusciter, on va être transformé en un clin d'œil. Par contre, dans le retour de Jésus-Christ, il y aura la résurrection, je pense, peut-être avant ou au moment où Jésus va revenir, des saints de l'Ancien Testament, Abraham, David et tous ceux qui ont précédé l'Église. Et aussi, il est dit, les saints qui vont souffrir dans la grande tribulation, parce que si vous n'êtes pas enlevés au moment de l'enlèvement de l'Église, vous allez entrer dans la tribulation et l'Antichrist va pourchasser les chrétiens, va leur faire la guerre comme c'est pas possible, et la plupart vont mourir décapités, comme dit, et certainement d'autres manières. Donc le Seigneur nous dit aujourd'hui, préparez-vous. Il y aura une chance peut-être après. On peut encore se convertir une fois que l'Église est enlevée, mais ça sera certainement au prix de votre vie. Aujourd'hui, vous pouvez avoir la grâce. Moi, je crois qu'il n'y a pas photo. Enfin, chacun son truc. Hein. Ensuite, concernant le comment, on pourrait dire, on l'a déjà dit, hein, c'est à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu que l'enlèvement se fera en un clin d'œil, on l'a dit. Par contre, pour le retour de Jésus, ça sera au ton de la trompette retentissante, nous dit Matthieu 24. Comme l'éclair, Jésus va revenir avec puissance et une grande gloire. Il va revenir au milieu d'une flamme de feu et il va revenir comme un voleur dans la nuit. C'est pas les mêmes événements, c'est pas les mêmes choses. Et puis, quand on parle de l'enlèvement de l'Église, on voit l'époux qui vient vers son épouse. Hein, ils se rejoignent les deux. Par contre, quand on voit Jésus qui vient sur la terre, il vient là comme un juge. C'est pas la même relation qu'il va y avoir à ce moment-là. Je préfère voir Jésus comme l'époux de l'Église que comme étant le juge, mon juge ou le juge de la terre. Donc ce petit tableau, simplement pour nous dire que l'enlèvement de l'Église n'a rien à voir avec le retour de Jésus-Christ et réciproquement. C'est bien deux événements qui sont complètement distincts et on vient de le démontrer par plusieurs arguments. Il y en a énormément d'autres, mais je ne veux pas tout dire ce soir non plus. On est à la page 12. On va rentrer maintenant dans les théories. Dans les différentes théories qui existent par rapport à l'enlèvement de l'Église. Il y en a quatre. Il y en a trois réellement, parce que certaines sont un peu oubliées. Mais la première, c'est important d'en parler, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement partiel. On va lire la définition que vous avez dans votre cahier. Selon cette théorie, seuls ceux qui veillent et qui guettent le retour du Seigneur seront jugés dignes d'échapper aux horreurs de la tribulation en étant enlevés. Alors voilà comment ils argumentent par rapport au salut. Ils disent que l'enlèvement partiel défend le salut par grâce et la sécurité éternelle du salut. Mais le croyant risque de perdre son héritage dans le millénium à cause de son relâchement. On va l'expliquer. Sa désobéissance peut donc lui faire perdre son droit de régner avec Christ. Concernant la sanctification, selon eux, le baptême du Saint-Esprit a une relation avec la puissance pour témoigner et la plénitude de l'Esprit n'est accordée qu'à certains croyants. Est-ce que c'est vrai ça ? C'est pas vrai. La plénitude du Saint-Esprit, on peut tous l'avoir à condition d'obéir à Christ. Évidemment, et au Saint-Esprit. Donc c'est un argument qui ne tient pas. Alors ils disent, eux, que seuls les chrétiens dits spirituels seront enlevés et vont échapper à la tribulation. C'est pas biblique, c'est leurs arguments. Hein. Concernant l'enlèvement, ils disent que les chrétiens et les saints matures décédés, pour les chrétiens et les saints matures décédés, l'enlèvement s'effectuera avant la tribulation. C'est une récompense pour ceux qui le mérite, mais ça ne sera pas une récompense pour ceux qui ne méritent pas. Si vous n'êtes pas assez spirituel, je suis désolé, selon eux, évidemment, vous rentrerez dans la tribulation, c'est une espèce de purgatoire pour eux, et vous allez traverser la tribulation pour devenir un peu plus spirituel. Je ne suis pas d'accord avec, mais c'est ce qu'ils disent. Il y en a qui sont d'accord avec cela. C'est un peu comme dans le catholicisme où on voit ce purgatoire qui est là, une fois qu'on meurt, on va être purifié pendant un certain temps et peut-être, si on donne assez d'argent, hein, parce que c'est ça le catholicisme, si on donne assez d'argent, peut-être qu'on va sortir. La Bible n'a jamais parlé de purgatoire. Et elle ne parle non plus pas que la tribulation est une forme de purgatoire pour le chrétien. Je nais de nouveau, je deviens chrétien, je vais grandir dans ma vie de chrétien, on parle de sanctification, je suis spirituel, alors on a des hauts et des bas, mais je suis saint devant Dieu, je suis justifié devant Dieu, et c'est pas mes hauts et mes bas qui vont réévaluer ce que Dieu veut de moi, voit de moi en fait. Moi j'aime à dire que quand je me suis converti, Dieu m'a justifié, il dit déclaré juste, et que à côté du trône, c'est une image, on est bien d'accord. Il y a un papier qui dit « Emmanuel est sauvé ». Alors, allez essayer d'aller là pour aller enlever ce papier. Vous ne pourrez pas, d'accord ? C'est ça la justification. C'est aussi l'assurance de mon salut. Et je n'ai pas besoin de passer par, je ne sais pas, quel purgatoire ou quelle purification pour pouvoir être sauvé. Vous comprenez l'idée ? Hein ? Voilà. Donc, quand Jésus va enlever son Église, il ne va pas enlever ceux qui sont très spirituel et laisser ceux qui sont peu spirituels. Ça serait injuste parce que vous venez de naître de nouveau. Vous venez de devenir chrétien. Et trois jours après, il y a l'enlèvement. Vous n'avez pas eu le temps de grandir, non ? Ça serait injuste quelque part. Concernant la première résurrection, ça serait pour eux un prix à gagner, réservé uniquement aux chrétiens qui est spirituel, comme on l'a dit. La résurrection de ceux qui n'auront pas été récompensés s'effectuera à la fin du millénium, en même temps que la résurrection des incroyants. Ils entreront, selon eux, dans le royaume éternel, mais ils ont été privés du règne terrestre. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cela. Concernant les souffrances, alors de nombreux passages pour eux de la Bible enseignent que le chrétien doit souffrir avant de pouvoir régner avec Christ. Alors, il est vrai que la vie chrétienne, ce n'est pas toujours facile. Mais il n'est pas dit qu'il faut forcément souffrir pour régner avec Christ. On est bien d'accord. Eux, ils disent, ces souffrances auront lieu maintenant ou pendant la tribulation. Pour certains, le feu de 1 Corinthiens 12, 15, tout à l'heure on parlait de ce tribunal de Christ et de ses récompenses, il est dit que certains chrétiens vont passer comme au travers du feu, parce que ils n'ont pas servi, parce qu'ils n'ont pas vraiment obéi. Ils seront sauvés, mais comme quelques auteurs disent, ils vont sentir l'odeur du roussi, parce qu'ils vont échapper tout juste à l'enfer, mais ils vont être quand même sauvés. Et donc, eux les confondraient, là, en fait. Ils considèrent également qu'Apocalypse 3, 5 comme un effacement temporaire du livre de vie. Je ne sais pas si vous connaissez le livre de vie dans la Bible, hein. C'est un peu compliqué, ce livre. Et donc, ils seraient effacés de ce livre de vie parce qu'ils sont des croyants charnels, parce qu'ils ne sont pas assez spirituels. Et les spirituels, eux, jouiraient de la récompense. Et ils argumentent encore autre chose concernant le droit d'aînesse. Je ne sais pas si vous connaissez ça à l'époque, hein, dans l'Ancien Testament. Alors, ils disent que comme on pouvait perdre son droit d'aînesse, vous vous souvenez de Jacob, il est possible alors de perdre l'occasion d'être enlevé avant la tribulation. Alors ça, c'est l'argument le plus... Je ne suis pas d'accord du tout avec ça. Mais ils essaient de trouver des justifications dans l'Ancien Testament. Il faut faire attention à sa manière d'argumenter parce que ça, ce n'est pas biblique. Donc je réfute cette première théorie en disant ceci. C'est mal comprendre l'efficacité de l'expiation de Jésus-Christ qui ne nécessite pas de purgatoire de la tribulation. Quand j'ai été sauvé, quand j'ai été pardonné, c'est une fois pour toutes. Moi, j'ai l'assurance du salut. Il n'y a rien d'autre qui pourra me l'enlever. Et ce n'est pas parce que parfois il m'arrive de tomber, de chuter, que je ne suis pas sauvé. Il faut faire la différence entre celui qui pratique le péché, qui le fait tous les jours, c'est celui qui n'est pas sauvé. Ça ne lui pose pas de problème de voler, de mentir, de tricher avec les impôts ou je ne sais pas quoi. En tant que chrétien, une fois qu'on est sauvé, il nous arrive encore de tomber, parce qu'on est encore des pécheurs. Mais si je devais tricher avec les impôts, ma conscience et le Saint-Esprit va me travailler et va me dire « Oh mon coco, attention, t'as pas à faire ça. » Il y a une différence donc entre les deux. Donc c'est mal comprendre aussi l'unité du corps de Christ, parce qu'il est dit que tous seront enlevés dans les passages qui parlent de l'enlèvement de l'Église. Il ne dit pas que certains seront enlevés. Tous nous serons enlevés. Et le « tous » concerne tout simplement l'Église. L'Église concerne tous ceux qui sont nés de nouveau. L'Église concerne ceux qui sont sauvés, tout simplement. Donc la Bible milite plus pour un enlèvement de tout le monde, en tant que chrétien, évidemment, et de l'Église. L'enlèvement n'est pas considéré comme une récompense. En tout cas, moi, j'ai jamais vu un passage qui parle comme cela. Et donc, c'est mal interprété selon eux. Enfin, ils interprètent mal les versets. Et donc, je dis, cette théorie considère l'enlèvement comme ayant une relation avec les œuvres des chrétiens. En fait, je vais être enlevé si je fais de meilleures œuvres que les autres. Mais vous avez imaginé une église qui est comme ça. Et Jean-Denis, ça fait longtemps que je t'ai pas embêté. Moi, je fais des meilleures œuvres que toi. Il dit oui, donc c'est peut-être vrai. Vous imaginez une église comme ça? C'est orgueilleux, non? C'est orgueilleux. Et Dieu veut qu'on soit humble. Donc, on est tous spirituels à partir du moment qu'on est né de nouveau. Alors, chacun a son chemin. On est tous différents. Certains avancent vite, certains avancent lentement. Mais c'est pas à moi de dire à quelqu'un qui avance un peu moins vite que moi que moi, je suis plus spirituel que toi. Attention, parce que quand on le dit, le Seigneur peut aussi nous freiner à un moment. Aïe, aïe, aïe. Non, on est tous sur la même longueur d'onde. On a tous été graciés et Dieu a fait un travail avec chacun. On peut retenir ce travail, c'est vrai. On peut des fois être un peu paresseux parce qu'on veut pas avancer avec le Seigneur. Mais c'est pas à nous de juger l'autre et surtout de dire que moi, je suis plus spirituel que toi. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui disent ça, hélas. Voilà pour cette première théorie qu'on balaye très rapidement. Mais c'était juste pour que vous sachiez que ça existe. Ça va? Ouais? Ça va devenir plus compliqué. Non. Une autre théorie s'appelle le mi-tribulationnisme. Qu'est-ce que ça pourrait dire? Mi-tribulationnisme. Moitié de la tribulation. La définition... Les mi-tribulationnistes enseignent que l'Église sera enlevée au milieu de la tribulation. Je vous ai fait un petit schéma à chaque fois, comme ça, ça vous aide un peu à comprendre. C'est-à-dire au milieu de la 70e semaine qu'on a vue hier de Daniel. Et ça désigne donc la seconde moitié de cette semaine comme étant la tribulation. Pour eux, la tribulation, ça serait que cette partie-là. Alors que nous, on désigne... Bon, Il y en a qui désignent cela comme étant la tribulation, il y en a qui disent la tribulation et grande tribulation, on ne va pas se battre sur les termes, mais eux pensent que l'Église sera donc enlevée au milieu de cette tribulation. Et ils argumentent, hein, alors ils disent, la Bible présente la deuxième partie de la tribulation comme un temps de jugement sévère. Et c'est vrai, hein, parce que quand vous étudiez l'Apocalypse et la chronologie, les événements vont être de plus en plus difficiles et douloureux, et tout particulièrement au moment où, tout à la fin de la tribulation, où là c'est le carnage total sur la terre, avant que Jésus revienne. Mais bon, la première partie des 3 ans, ils disent, et demi de la tribulation correspondrait à la colère des hommes, et la seconde à la colère de Dieu. Là, moi, j'ai pas d'argument pour dire cela. C'est leur interprétation. Argument concernant les saints. Ils disent, les mi-tribulationnistes identifient les saints d'Apocalypse avec l'Église. Il faut avoir un peu lu Apocalypse, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion, on voit ce mot saint qui revient plusieurs fois, et donc il y en a qui vont l'employer et vont le définir selon ce qu'ils ont envie. Et eux, ils disent, ça, si on voit le mot saint dans l'Apocalypse, ça veut dire que c'est l'Église automatiquement. Ce n'est pas vrai, mais bon. Selon eux, ces saints, en supposant, comme j'ai dit, qu'il s'agisse là de l'Église, seront persécutés par l'Antichrist pendant la première moitié de la tribulation, soit 3 ans et demi, ils considèrent pour cela que la femme de ces passages corresponde à l'Église. Si vous connaissez Apocalypse 12, il est dit en Apocalypse 12 qu'une fois que l'Antichrist va prendre le pouvoir, on va revenir sur ça demain, il va persécuter Israël dans la deuxième partie de la tribulation. Et on parle d'une femme dans Apocalypse 12. Pour nous et pour beaucoup de commentateurs, il ne s'agit pas de l'Église, hein, il s'agit d'Israël, en fait. Hein. Et il va pourchasser Israël pendant cette deuxième partie de la tribulation, mais eux pensent qu'en en fait, il s'agit de l'Église. Ils n'ont pas raison, en fait. Hein. C'est un mauvais argument. Concernant le vocabulaire, hein, je vais aller un peu plus vite. Ben, vous voyez pourquoi j'ai fait l'étude du vocabulaire tout à l'heure, parce qu'ils vont l'employer pour argumenter. Et ils s'appuient donc dessus également, par exemple, sur le discours du mont des Oliviers. Pour eux, par exemple, Matthieu 24, 27 fait allusion à l'enlèvement parce que le mot paroussia, avènement, est aussi employé dans 1 Thessaloniciens 4, 15. Alors, il faut savoir que Matthieu parle du retour de Jésus et 1 Thessaloniciens 4 parle de l'enlèvement de l'Église. Et vous voyez que le mot, on va argumenter en fonction de ce qu'on a envie. Il trouve également un lien entre Matthieu 24 et 2 Thessaloniciens 2, 1, où là, les choses ne sont pas tout à fait claires. Hein. Parce que, selon eux, ces passages emploient des mots provenant de la même racine. Donc, en fait, ils vont employer simplement le vocabulaire, et à partir du vocabulaire, ils vont établir leur théorie. Mais on a vu tout à l'heure que le vocabulaire ne permet pas, même pour nous, en tant que pré-tribulationnistes, d'argumenter en faveur de notre position. Hein. Donc, moi, je suis obligé de rejeter. Alors, si vous voulez, hein, vous écrivez un livre. Hein. Ça ne me gêne pas, hein, mais bon, on peut discuter. Argument concernant les signes, hein, les partisans du mythe tribulationniste ajoutent encore à leur théorie que l'enlèvement sera précédé de signes qui avertiront les croyants. Ces signes concernent la propagation de l'évangile, par exemple, l'apparition de la bête ou encore la persécution générale. C'est vrai qu'il est dit qu'il y aura des signes avant que Jésus revienne. Maintenant, allez pas trop chercher les signes non plus, hein, parce que des fois on exagère, il y en a qui voient dans tous les événements, hein. Moi je me souviens quand il y avait l'élection avec Nicolas Sarkozy il y a quelques années, c'était l'antichrist, hein, pour certains chrétiens. Et sérieusement, on va chercher des signes. Il ne faut pas chercher trop de signes. Il y a des choses aujourd'hui, on va voir par exemple le temple, l'Europe, etc. Il y a des signes, certes, il y a des guerres, des bruits de guerre, il y a toujours eu des guerres aussi, hein, souvenez-vous-en. Donc ne pas chercher trop de signes, mais pour autant être attentif à ce qui se passe aujourd'hui, ne pas être paranoïaque non plus. Parce qu'il y a des chrétiens qui savent. Hein, je me souviens qu'on était passé à l'an 2000, il y a des chrétiens qui ont paniqué. Hein. Ils croyaient que c'était la fin du monde. Ils ont fait des réserves. Hein. Ils ont cherché les signes, ils ont exagéré les signes. Bon, après, ils avaient des bonnes réserves pendant un bon moment, puisque Jésus n'est pas revenu. Hein. Mais bon, voilà. Mais c'est facile d'aller très vite interpréter des choses en politique. Hein, on voit la Russie aujourd'hui, oh, c'est l'antichrist. C'est trop facile. Il faut être très, très prudent. Concernant, et ça c'est leur grand argument, la dernière trompette, hein, selon eux, la dernière trompette dans 1 Corinthiens 15, 52, qui nous parle de l'enlèvement de l'Église, qui se fera à la dernière trompette, donc à partir de cela, ils disent que ça correspond à la 7e trompette d'Apocalypse. Il faut savoir que dans Apocalypse, dans cette période de la tribulation, vous avez les 7 sceaux, 7 trompettes et 7 coupes. C'est, on va dire, la chronologie de l'Apocalypse, globalement. Hein. Et donc, ils disent que la 7e trompette se situe au milieu de la tribulation. Et donc, comme c'est à la dernière trompette, donc c'est à ce moment-là que l'Église va être enlevée. On ne pourra pas vraiment rentrer dans le détail dans les deux prochaines réunions, mais pour beaucoup de gens, la dernière trompette se situe plutôt vers la fin de la tribulation. J'ai beaucoup d'arguments. Et en fait, le milieu de la tribulation serait plutôt la cinquième trompette. Si vous voulez, venez me voir tout à l'heure, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Donc pour moi, l'argument là non plus ne tient pas. Donc je réfute, je vous laisserai un peu lire le reste, hein, pour aller un peu plus vite. Je réfute simplement en disant que tous les passages employés par ces mi-tribulationnistes évoquent des événements majeurs au milieu de la tribulation. Aucune ne parle explicitement de l'enlèvement de l'Église en Apocalypse. Parce que ce qui va se passer vraiment au milieu de la tribulation, c'est la prise de pouvoir de l'Antichrist, c'est des démons qui vont être relâchés sur la terre. Enfin, il y a d'autres événements qui vont se passer que l'enlèvement de l'Église, à la lumière de tous les autres passages. Donc ce n'est pas sur la base d'un ou deux versets que je peux dire que l'Église va être enlevée au milieu de la tribulation. Ça ne tient pas, tout simplement. Ça va ? Oui ? Il y en a une, ça va. Ben, vous voyez, des fois on dit moi je pense ça, mais voilà, il faut argumenter aussi à un moment. Parce que c'est facile de dire à un autre, maintenant t'as tort. Mais est-ce qu'on est capable de lui dire pourquoi tu as tort, avec paix et amour, hein, on n'est pas là pour se disputer. Et est-ce que moi-même, est-ce que j'ai des convictions dans mon cœur, ou alors je dis simplement, moi je crois que je suis enlevé avant la tribulation, mais je ne sais pas pourquoi. Normalement, on doit avoir une conviction, sinon c'est le fruit d'un péché, enfin c'est un péché quelque part. On va parler du post-tribulationnisme qui est le plus courant aujourd'hui comme position, hein, si vous lisez un peu les livres, etc. La définition, donc les post-tribulationnistes pensent que l'enlèvement de l'Église et la seconde venue de Jésus forment un seul et unique événement et que cet événement, en fait, se produira à la fin de la tribulation, juste avant que Jésus revienne. En fait, en gros, pratiquement, on sera enlevé, on voit Jésus et puis on revient avec lui. J'espère que vous n'avez pas le vertige, c'est tout, hein. Bon, ça peut se faire un peu moins vite que ce que je suis en train de décrire là. Mais ça, c'est l'idée. Donc, ils vont argumenter de plusieurs manières et ils ont des fois des bons arguments, hein, je suis pas contre. Par exemple, l'argument historique. Parce que quand on étudie l'histoire de l'Église, on voit que dans les premiers siècles, l'idée générale des chrétiens et des penseurs à ce moment-là, des théologiens, c'était plutôt d'être post-tribulationniste. Et ils pensaient à ce moment-là que il serait enlevé à la fin de sa tribulation. Bon, on était au début de l'histoire de l'Église, on n'a pas eu le temps de vraiment étudier tout encore, hein. Ça demande beaucoup de temps d'étudier l'eschatologie. C'était leur pensée à ce moment-là. Et donc ils s'attendaient, eux, à ce que l'Église ait à souffrir ce que va faire l'Antichrist, la tribulation, etc. Il faut aussi comprendre que au moment où Jésus est décédé, au moment où il est monté au ciel, au moment que l'Église est née, il y a énormément de persécutions. Beaucoup de chrétiens sont morts pour le nom de Jésus-Christ. C'est terrible. Donc peut-être il y avait aussi cette ambiance-là qui faisait penser à cela. Je ne sais pas. Ils vont employer l'argument du vocabulaire également. Ils disent que le mot parousie et apocalypsis sont employés pour l'enlèvement de l'Église et pour le retour de Christ. Les deux mots signifient le même événement pour eux. Et un troisième mot qu'ils vont dire, qui est épiphanéa, qu'on a vu tout à l'heure, qui signifie manifestation, apparition, signifie également retour de Christ et enlèvement de l'Église, un même moment. Vous voyez pourquoi je voulais étudier le terme avant. Ils disent, il est employé en Thessaloniciens 2:8, hein, vous regardez le verset, j'ai pas le temps de les lire, lorsque Christ détruira l'Antichrist par la manifestation de sa venue, ou en 2 Timothée 4:8, Tite 2, etc., pour désigner l'espérance du croyant dans l'attente de la manifestation du Christ. Pour eux, leur espérance, c'est que Jésus revienne, pas que l'Église soit enlevée. Ou les deux en même temps, en fait. Les deux en même temps. Ça, c'est leur espérance. Alors, moi, je m'amuse un peu des fois, parce que si on suit leur raisonnement, en disant que le mot épiphanéa, lequel on avait encore, tous les trois mots, parousie, apocalypse, veut dire absolument le retour de Jésus et l'enlèvement de l'Église. Ça veut dire absolument ça. Ça dit ça. Alors j'ai écrit, si on suit ce raisonnement, l'utilisation d'un même mot oblige à confondre ce qui est décrit comme un événement. Je m'explique. Aussi, quand Paul déclare, afin que par mon retour, il dit ça en Philippiens 1, 26, mais mon retour vers les chrétiens, vers l'Église, et là, il y a le mot parousia qui est employé, le même mot que pour l'enlèvement. Donc, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier. Si on joue leur jeu, en fait, Paul est en train de dire que il est en train de parler de l'enlèvement de l'Église ou le retour de Jésus-Christ parce qu'il emploie ce mot-là. C'est pas logique. Vous comprenez l'idée ? Vous me regardez avec un air. si on veut absolument dire que les trois mots qu'on a utilisés tout à l'heure désignent seulement l'enlèvement et le retour de Jésus-Christ, Ça veut dire que son utilisation dans les autres textes doit signifier la même chose. Ce mot-là, il est employé simplement pour un Paul qui va rejoindre une église. On ne parle pas de l'enlèvement de l'église. Et voyez comme c'est important de voir le contexte autour du mot pour essayer de comprendre la signification du mot. Parce que sinon, ben on peut prêter à confusion tout simplement. Si vous n'avez pas compris, venez me voir tout à l'heure. Non, mais c'est important. L'argument concernant l'expression en ce jour-là. Vous avez déjà vu peut-être dans l'Ancien Testament ou peut-être dans le Nouveau Testament, en ce jour-là, en ce jour-là. Et globalement, ce jour-là désigne le retour de Jésus-Christ. Mais bon, eux pensent également qu'il est difficile de différencier entre toutes les formulations concernant le mot « jour », tel que le jour du Fils de l'homme, le jour du Seigneur, il y a peut-être d'autres expressions. C'est pourquoi que chaque fois que la Bible mentionne le mot « jour », dans un contexte eschatologique, il énonce, selon eux, une même réalité future. Pour eux, à partir du moment qu'on parle « en ce jour-là », c'est uniquement le retour de Jésus-Christ. Globalement, oui, mais pas toujours. On ne peut pas être aussi strict non plus. Donc l'argument ne tient pas non plus. Argument concernant la présence de l'Église dans la tribulation, dans la période de la tribulation. Pour cela, il faudrait lire Apocalypse verset 4 jusqu'au verset 18 et voir est-ce que là-dedans, on arrive à trouver des versets qui disent que l'Église est en train de traverser la tribulation. Ils disent, pour eux, ils situent encore l'Église dans la période de tribulation. Et ils disent, comme les croyants sont exhortés à attendre l'apocalypsis, ou la révélation de Jésus, comme Timothée est appelé à rester pur jusqu'à l'avènement, c'est-à-dire l'apocalypsis de Jésus-Christ, cela signifie que les croyants seront toujours présents sur la terre avant le retour de Jésus. Encore une fois, on utilise le vocabulaire pour argumenter en faveur d'une position ou d'une certaine idée. Apocalypse parle aussi, selon eux, des saints, et on emploie d'autres expressions pour désigner ceux qui suivent Jésus-Christ dans cette période de la tribulation. Et selon eux, cela démontre pour eux que les chrétiens sont encore présents lors de la tribulation, comme la dernière génération de la dispensation de l'Église. Concernant le mot saint, j'explique, son emploi dans l'Ancienne Alliance, sous la dispensation de l'Église, ou lors de la tribulation, ne me permet pas de lui donner une spécificité propre. C'est chaque période est propre à elle-même, et quand on parle d'un saint dans l'Ancien Testament, on ne parle pas de la même manière d'un saint dans l'Église, et on ne parlera pas d'un saint non plus pendant la période de tribulation. Je n'ai pas le droit de résumer cela aussi facilement. C'est ça l'idée, en fait. Concernant Apocalypse 3:10, voilà. Ils attribuent ce passage à la délivrance de la persécution pour les chrétiens. Cette délivrance aurait lieu lors du retour de Jésus-Christ après la tribulation, par l'enlèvement de tous les croyants encore vivants. En fait, il est dit que dans Apocalypse, qu'on va être préservé de ce qui va arriver. On va le revoir tout à l'heure pour défendre notre position. Mais en gros, on va être préservé, pas dans le sens où on ne va pas vivre la tribulation, mais on va avoir la possibilité de la traverser. Mais il va falloir rentrer dans le grec, on verra ça tout à l'heure. Je ne suis pas d'accord aussi avec leur argument. Mais pour eux, ça veut dire qu'ils disent... Le verset dit « Je te garderai aussi hors de l'heure de la tentation ». Et pour eux, le mot « ek » en fait, qui est « hors d'eux » en grec, ben pour eux signifie que quand même ils vont rentrer dedans. On verra ça tout à l'heure. Mais pour eux, Dieu va leur permettre de rentrer dans la tribulation, mais va leur donner la force aussi de la traverser. Bon, pourquoi pas. Argument concernant 1 Thessaloniciens 4, versets 13, 5 à 11. Pour ceux qui connaissent le passage, le chapitre 4 parle de l'enlèvement de l'Église et il continue en parlant du retour de Jésus-Christ. C'est deux choses bien distinctes, mais eux vont fusionner le passage. Et donc ils disent, il existe un lien étroit entre le chapitre 4 et 5 de 1 Thessaloniciens. Et bon, dans le grec, on emploie une conjonction qui s'appelle « des », c'est « mais » en grec, mais pour ce qui est des temps. Donc, en fait, Paul est en train de parler de l'enlèvement de l'Église, il s'arrête et puis il emploie ce terme « mais » pour ce qui est des temps. Et il continue en disant maintenant ce qui va se passer quand Jésus va revenir. Dans sa tête, il distingue bien les deux. Mais eux vont dire « non, 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 c'est le même moment, en fait. » Ça, c'est une question d'interprétation. Voilà. Donc cette particule indiquerait une connexion entre les deux textes et les deux idées et les deux événements. Et donc Paul, selon eux, confondrait les deux événements. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais on reverra un peu plus tard. Et puis l'argument concernant la première résurrection. Alors, dans la Bible, on parle de combien de résurrections ? Deux ? Oui, deux. Laquelle ? Lesquelles, pardon. Oh ! c'est pas grave si on se trompe, hein. Il n'y a pas de note, hein. Il y a la résurrection des injustes. On va résumer un peu autrement. Il y a la résurrection des justes et la résurrection des injustes. D'accord ? Ça, c'est les deux grandes étapes de la résurrection. Par contre, et on va voir, je crois, un peu plus tard, la résurrection des injustes se fera au grand trône blanc. À un moment, Dieu va détruire la terre, tout cela va disparaître, il va ressusciter tous ceux qui ont refusé de suivre Jésus-Christ et tous ceux qui, avant même, ont refusé de vivre par la foi et d'accepter Dieu dans leur vie, et tout cela vont ressusciter. Et ce qui est terrible, dans la Bible, il est dit petits et grands vont ressusciter, vont se retrouver devant le trône de Dieu et seront condamnés pour passer l'éternité loin de Dieu. Ça, c'est la résurrection des injustes. Par contre, quand on parle de la résurrection des justes, alors là, eux vont argumenter comme cela, et je vais expliquer après. La Bible nous parle de deux résurrections, celle des justes, pour la vie, et celle des injustes pour le jugement. Si vous connaissez Daniel 12, il semble la placer à la fin de la tribulation, et c'est vrai, parce qu'il est dit dans Daniel 12 que les saints de l'Ancien Testament vont ressusciter en une période de trouble comme la terre n'en a jamais connu. Alors, quand on connaît l'Apocalypse, on se dit, pourquoi pas placer ça là ? Enfin, moi, je le place là, en tout cas. C'est la période à la fin de la tribulation, juste avant que Jésus revienne, qui sera la plus terrible que la terre et le monde aient jamais connue. Et donc, c'est à ce moment-là que les saints de l'Ancien Testament, c'est-à-dire ceux qui ne font pas partie de l'Église, Abraham, David et tout ça, avant la Pentecôte, qui vont ressusciter à ce moment-là. Je suis d'accord avec ça, par contre. Mais eux vont l'employer autrement. Aussi, comme il n'y a qu'une seule résurrection des justes, et que là, en fait, avec Daniel, on arrive à préciser où est la résurrection, donc on va dire, il y a aussi l'Église qui va être ressuscitée là. Voilà, c'est ça l'idée, en fait. Et l'argument n'est pas mauvais. Honnêtement, il n'est pas mauvais. Le seul problème, c'est qu'il est dit dans Apocalypse 20, verset 4, que après que Jésus revienne, il y aura aussi encore une résurrection, mais celle des martyrs. C'est-à-dire que si l'Église est enlevée au début de la tribulation, il y a peut-être des gens qui n'ont pas encore accepté Jésus dans leur vie. Ils sont peut-être dans l'Église ou pas. Ils vont se convertir. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ils vont devoir traverser cette période-là, qui n'est plus la période de la grâce, mais cette période où cette dispensation de la tribulation, certains vont devoir mourir à cause de leur foi. Et beaucoup vont se faire décapiter, et certainement d'autres choses, et vont mourir, mais vont ressusciter parce que, à cause du témoignage qu'ils ont eu, à cause de leur foi qu'ils ont eu, vont ressusciter, en fait, juste après que Jésus soit revenu. On appelle ça la résurrection des martyrs. Et en fait, quand on regarde cette résurrection des justes, il y a trois résurrections, en fait, si on réfléchit. Il y a la résurrection des saints de l'Ancien Testament, il y a la résurrection de l'Église, et puis il y a la résurrection de ces martyrs de la tribulation. Mais eux vont dire, non, il n'y a qu'un seul événement et on va le placer à la fin de la tribulation, ce qui veut dire qu'on est post-tribulationniste. Ça va ? Vous comprenez l'argument ? Ok, j'ai pas l'impression, mais bon. On va voir les problèmes que pose en fait cette position, on pourrait dire. D'abord, le problème de l'espérance réconfortante. Parce que si vous lisez 1 Thessaloniciens 4, Paul dit à l'Église, consolez-vous par une chose, l'Église va être enlevée. Parce qu'ils étaient dans le trouble à ce moment-là, et c'est un argument on va voir tout à l'heure. Mais consolez-vous avec le fait que vous allez être enlevés à un moment. Vous pouvez dire ça à ces gens-là qui vont devoir traverser la tribulation, consolez-vous, vous allez vous faire décapiter. C'est une consolation pour vous ? Pour moi, ça n'en est pas une. Et c'est un argument quelque part pour dire que l'Église n'aura pas à traverser cette période de tribulation. Puis l'autre problème, il y a un autre texte dans 2 Thessaloniciens qui parle de celui qui est impie et qui est retenu. On ne voit pas bien en rouge, je suis désolé. Mais il est dit en gros qu'il y a quelque chose qui retient l'impie, c'est-à-dire l'Antichrist actuellement. Et qu'une fois que cette chose va être enlevée, on va avoir un peu plus en détail tout à l'heure, je crois. Une fois que cette chose est enlevée, l'Antichrist va pouvoir commencer à travailler dans le monde. Mais quelque chose le retient aujourd'hui. Et ce quelque chose, en fait, pour moi et pour d'autres, on pense que c'est le Saint-Esprit, tout simplement. On verra l'argument un peu plus en profondeur tout à l'heure. Et s'il y a Saint-Esprit, il y a forcément Église. Il n'y a pas Église sans Saint-Esprit. Et donc, au moment où l'Église sera enlevée, donc avant la tribulation, on va le défendre tout à l'heure, l'Antichrist va pouvoir se mettre au travail, en fait. Il est déjà au travail. Mais on est là, nous, en tant que chrétiens, et l'air de rien, vous vous rendez pas compte, mais on fait quelque chose, hein, et Dieu fait quelque chose avec chacun d'entre nous. On peut des fois reprendre ceux qui sont dans l'injustice, on peut reprendre des gens qui sont dans le péché, on va témoigner à des gens qui vont se convertir, c'est pas rien quand même. On s'en rend compte ? C'est notre rôle, hein. On a vu hier qu'on est ambassadeur de Jésus-Christ, et un ambassadeur, hein, il représente son pays et il travaille pour son pays. Alors, notre pays, il est dans le ciel, évidemment. Mais nous, en tant qu'Église, ben, on a une certaine importance. Mais quand l'Église sera enlevée, alors l'Antichrist va commencer son travail et son œuvre terrible. Voilà pour le post-tribulationnisme. Donc, on a vu l'enlèvement partiel qui dit que une partie seulement des chrétiens va être enlevée et l'autre partie qui n'est pas spirituelle va traverser la tribulation et puis finalement on va tous se retrouver dans le millénium. Le mi-tribulationnisme dit que l'Église sera enlevée au milieu de la tribulation à la dernière trompette, mais on a vu que la dernière trompette ne se situe pas au milieu de la tribulation. Il serait plutôt dans ce cas-là post-tribulationniste, et c'est ce qu'on vient de voir comme argument. Alors ma position à moi, vous avez le droit de la débattre, hein, et j'espère que vous allez la débattre tout à l'heure, c'est d'être pré-tribulationniste. Alors, il faut savoir aussi certaines choses, hein, parce que ça va peut-être vous étonner. Quand on s'intéresse un peu à la définition à l'origine, l'enlèvement des croyants déjà morts et des croyants vivants aura lieu avant la période de la tribulation. C'est ça être pré-tribulationniste. En général, les pré-tribulationnistes concèdent qu'il n'y a pas vraiment de traces d'enseignement pré-tribulationniste clair dans les écrits des premiers siècles. Tout à l'heure, j'avais dit que les premiers penseurs, les premiers théologiens, pensaient plus être post-tribulationnistes. Et en fait, une jeune fille écossaise de l'église catholique apocalyptique, hein, ça c'est une sacrée église, d'Edward Irving, elle s'appelait Margaret MacDonald, va recevoir une vision en 1830 qui va parler du pré-tribulationnisme. Alors, on ne sait peut-être pas, mais c'est sur la base d'une vision. Est-ce que c'est vrai ou pas, ça, on ne va pas se battre. Hein, mais je veux juste qu'on le sache quand même. Et plus tard, Robert Baxter recevra aussi lui-même une révélation en 1832, comme quoi, en fait, cet enlèvement secret se fera avant la tribulation. Et puis, vous connaissez Darby, il a écrit la Bible Darby, qui va énormément développer ce système pré-tribulationniste pendant toute sa vie. Donc, vous voyez, l'origine est un peu vision. Moi, je me méfie de tout ça. Alors, on ne va pas s'appuyer sur les origines ou sur l'histoire, mais on va s'appuyer sur des arguments bibliques, hein. Pour moi, les visions, je suis très prudent avec cela aujourd'hui. Tout le monde peut avoir des visions, ce n'est pas forcément Dieu qui donne ses visions. Mais quand on veut défendre un argument, on va dans la Bible. On va chercher dans la Bible ce que dit la Bible, la preuve est dans la Bible, et pas dans ce que je ressens, de ce que je peux penser, etc., etc. Je vais vous donner plusieurs arguments pour consolider cette pensée, hein. Alors, après, on a le droit d'être d'accord ou pas, hein. On revient avec ce texte de Apocalypse 3:10 qui dit que je te préserverai hors de l'heure. Il parle de l'Église. Alors, Apocalypse 3:10 déclare que parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Dans le grec, nous lisons en fait ek tes horas, ça veut dire je te garderai hors de l'heure. Ek tes horas. La proposition ek normalement dénote une origine, hein, un point d'où l'action ou le mouvement procède, puis deux, hors de, d'un lieu, d'un temps, d'une cause. Darby traduit par exemple ici que l'Église sera préservée de l'heure de l'épreuve, hein. Et en fait, avec la conjugaison, etc., hors de, si on utilise le mot grec ek, il dit hors de, ça veut dire tu ne toucheras pas en fait à ce qui va se passer. En gros, hein, pour être simple. Donc en fait, l'argument qu'ils utilisaient dans le post-tribulationnisme n'est pas bon, en tout cas pas dans la grammaire. Il est plutôt en train de dire là, Jean, enfin la révélation qu'il reçoit, que l'Église sera préservée en fait de la tribulation et ne vivra pas cette tribulation. La Bible a noté, dit que le Seigneur ne promet pas à l'Église, c'est une autre pensée, hein, de Philadelphie, de lui épargner tout à fait cette épreuve, mais de la garder de manière à l'en faire sortir indemne. On joue un peu sur les mots. Alexander, vous connaissez tous le livre Apocalypse, hein, il écrit, il pense quant à lui qu'il ne faut pas confondre l'heure de la tentation avec la grande tribulation des temps futurs. Seulement, le verset nous parle de l'heure de l'épreuve qui doit venir sur le monde entier. Et l'heure de l'épreuve qui doit venir sur le monde entier, c'est la tribulation, obligatoirement. Donc, c'est pas le meilleur des arguments, mais quand même, dans Jean, il est plutôt en train de dire que l'Église sera préservée de cette période de tribulation. Un autre argument qui a son poids. C'est dommage qu'on n'ait pas le temps de le lire, mais dans 2 Thessaloniciens 1, 8, Paul va répondre à je vais le résumer, hein, parce que sinon on va pas avoir trop le temps. Il va répondre à des chrétiens qui se disaient, on est persécutés aujourd'hui, de plus en plus. Et pour eux, ils disaient, mais on est dans la tribulation, parce qu'on est persécutés. Et Paul va leur dire, non, ne vous troublez pas, c'est pas encore le moment. Et en fait, il est en train d'argumenter là quelque part en disant, ben, vous pensez être déjà dans la tribulation qui doit venir, mais non, c'est pas ça la tribulation. Donc Paul, quelque part, dit, je suis pré-tribulationniste. C'est ça l'idée. Et donc il rassure ces pauvres Thessaloniciens et il leur montre bien que non, c'est pas encore la période de la tribulation. Là, les chrétiens étaient martyrisés parce que l'Église devait grandir, n'était pas connue, mais devait grandir à ce moment-là. Et c'est un argument quand même de valeur, hein, pour dire que l'Église sera enlevée avant la tribulation. Puis on revient sur ce fameux homme impie, le retenant, qui est dans le même passage, hein, qui doit apparaître au commencement de la tribulation, qui est retenu par quelque chose aujourd'hui. Et en fait, si on va voir un peu le grec là-dedans, on voit qu'à un moment, le retenant est à la fois dans la grammaire au masculin, il emploie au masculin, et à la fois, c'est un peu comme l'allemand, dans le neutre. Il emploie une fois en disant c'est un masculin, et une fois en disant c'est un neutre. Et la seule personne, on pourrait dire, qui est, comment dire, avec laquelle on utilise et à la fois le masculin et le neutre dans le Nouveau Testament, c'est le Saint-Esprit. Il est à la fois des fois masculin et à la fois des fois neutre. Un pneuma, il est employé de cette manière-là. En fait, avec l'argument, on pourrait dire, de la grammaire, on dit que comme il n'y a qu'un seul qui est à la fois masculin et qui est neutre, le Saint-Esprit, donc c'est le Saint-Esprit à ce moment-là qui est en train de retenir l'homme impie, et l'homme impie est tout simplement l'Antichrist. Mais si on dit que le Saint-Esprit retient l'Antichrist, le Saint-Esprit est aujourd'hui en pleine action au travers de l'Église, et donc forcément quand le Saint-Esprit s'en va, l'Église s'en va avec lui. Et voilà un argument, je pense qu'il y a aussi sa valeur. Il y a beaucoup d'autres arguments, vous prendrez le temps de le lire, mais je pense que c'est aussi un argument qui a son poids. Ensuite, l'argument concernant l'absence du Saint-Esprit durant la tribulation. Pour ça, il faudrait lire l'Apocalypse, encore une fois, du chapitre 4 jusqu'au chapitre 20 environ. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, on ne parle plus du tout du Saint-Esprit. Dans les épîtres de Paul, on parle souvent du Saint-Esprit, on revient dessus, il est notre consolateur, etc. Mais pendant cette période de tribulation, plus jamais employé. Et le seul moment où on va en parler, il est dit dans, je ne me souviens plus la référence, mais il est dit que le Saint-Esprit parle du haut du ciel, là où est l'Église, tout simplement. Et donc il n'est plus sur la terre sous la forme que nous connaissons, parce qu'il faut un peu faire d'histoire par rapport au Saint-Esprit. David, par exemple, avait une relation avec le Saint-Esprit, mais pas comme nous aujourd'hui. On voit que le roi qui était juste avant, Saül, voilà, il lui a été retiré. C'est pas fort dans les rois. Il a été retiré. Il y avait une relation avec le Saint-Esprit avant l'Église qui était différente. Aujourd'hui, par contre, à partir du moment que je nais de nouveau, que je me suis repenti, je suis scellé du Saint-Esprit qui est, comme dit Éphésiens 13, un gage de ma rédemption. Si je suis né de nouveau, je suis aussi certain qu'un jour, je vais ressusciter avec le Seigneur. Je n'ai pas à faire autre chose pour avoir le Saint-Esprit. C'est seulement la nouvelle naissance. Mais pendant la tribulation, il semblerait qu'il y ait une autre relation de nouveau entre peut-être ces gens qui vont avoir la foi. La Bible n'en parle pas, donc je ne vais rien vous dire, mais ça ne sera pas la même relation que nous avons nous aujourd'hui, et le Saint-Esprit est en haut dans le ciel, certainement avec l'Église, mais va agir, je pense, sur la terre, mais d'une autre manière qu'il est en train d'agir aujourd'hui. Voilà l'argument. Quand on lit Apocalypse 4, versets 4 à 18, si vous cherchez quelque part l'Église, vous ne verrez jamais le nom Église là-dedans. Alors il y a certains qui vont le confondre avec les 144 000, on va en parler un peu plus tard, mais ça n'a rien à voir avec l'Église. Il y a des martyrs aussi dans Apocalypse 7 qui sont dans le ciel, mais ça c'est ces fameux martyrs qui vont ressusciter à ce moment-là. Vous pouvez chercher où vous voulez, on ne parle pas de l'Église pendant cette période de la tribulation, nulle part c'est cité. L'argument concernant l'annonce de l'Évangile. Si vous avez lu Apocalypse, vous voyez qu'à un moment, il y a deux témoins qui sont appelés à témoigner. Durant 1260 jours, c'est donc dans la deuxième période de la tribulation, ils vont être appelés à témoigner de l'Évangile quelque part. Alors on peut se poser la question, pourquoi Dieu donne un sacré ministère à ces deux personnages, je crois qu'on va en parler aussi, pour annoncer l'évangile, alors qu'il a donné cette mission à qui ? À l'Église. Pourquoi il confie maintenant cette mission à quelqu'un d'autre ? Donc ça veut dire tout simplement parce que l'Église n'est plus là pour faire ce travail-là, et Dieu maintenant a décidé de confier cette mission à ces deux personnes et à d'autres aussi, d'une manière ou d'une autre, mais ce n'est plus l'Église qui est en train maintenant d'évangéliser, d'annoncer la bonne nouvelle durant cette période, et ça aussi c'est un bon argument. Concernant la colère de Dieu, vous vous souvenez, on avait dit que cette période de tribulation est aussi comparée à la colère de Dieu. Par contre, quand on lit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 9, et dans 1 Thessaloniciens 1, il dit que l'Église ne connaîtra pas la colère à venir. Donc on pourrait traduire, l'Église ne connaîtra pas la tribulation à venir. Ça, c'est aussi deux arguments. Alors, ça peut se discuter, mais il y a d'autres textes qui affirment cela tout simplement. Donc en tant que chrétien, je partirai avant que ces événements vont arriver. Le Seigneur ne veut pas qu'on ait à vivre cela. Un cadeau qu'il nous fait quelque part. Un beau cadeau en tout cas. Mais évidemment, il faut être chrétien pour cela. Il faut être né de nouveau. Argument concernant les 24 vieillards. Je ne sais pas si vous avez, vous souvenez un peu dans l'Apocalypse, hein, il faut vraiment avoir un peu de connaissances. Mais j'en aperçois 24 vieillards assis sur des trônes et qui sont couronnés à ce moment-là. Alors, on voit qu'ils vont jeter leur couronne devant l'agneau. Ils reçoivent des récompenses, ils reçoivent la gloire, mais quelque part, ils la rendent à Jésus-Christ, qui est le seul qui la mérite, évidemment. Il semblerait qu'ils aient déjà reçu leur couronne, et ceci avant même l'ouverture du premier sceau. Le premier sceau va s'ouvrir, évidemment, au début de la tribulation. Et il semblerait que ces 24 vieillards sont déjà avec leur couronne, avec leur récompense. Ça veut dire donc que l'Église a été enlevée, elle est passée devant le tribunal de Christ, et a reçu ses récompenses. C'est ça, tout simplement, l'idée. L'argument, je ne vais pas rentrer dans le détail, on pourrait le casser, mais on va rester juste là-dessus. D'accord ? Donc, les 24 vieillards représentent l'Église, tout simplement. Ils peuvent aussi représenter les saints de l'Ancien Testament. Dans ce cas-là, ça poserait un problème, mais on va rester simple quand même, je ne vais pas trop vous embrouiller. Puis, un super argument, je crois, et il faut le connaître, c'est le mariage juif. Je ne sais pas si vous avez déjà un mariage juif. Hein. Vous allez voir que c'est intéressant, et je vais le lire parce que c'est très intéressant. Selon les coutumes nuptiales hébraïques, l'Église doit se trouver au ciel avant la venue de Christ et à la fin de la tribulation. Elle est enlevée au début de la tribulation et elle va revenir avec l'époux, avec Jésus-Christ. Cette pensée naît à cause des étapes du mariage juif. Une première étape dans ce mariage, alors il faut connaître la coutume, concerne les fiançailles. Le fiancé se rendait à la maison du père, toc toc toc, j'ai envie d'épouser votre dame, enfin votre fille, voilà, je me présente. Ça rappelle des souvenirs à ces messieurs, non ? On ne fait pas comme ça en France. Hein. Et alors, je vais résumer pour aller un peu plus vite. La deuxième étape, le fiancé partait. Papa a dit oui, donc je suis content. Je repartais et pendant un an, il préparait tout simplement la maison pour accueillir sa fiancée. Et puis, sans que la fiancée le sache, un jour, toc, 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 le fiancé arrive et va convoler en os. Et ce qui est intéressant, c'est que le fiancé et la fiancée, l'époux et l'épouse, vont partir pendant 7 jours, convoler en os. 7 jours, ça vous rappelle quoi ? 7 ans. C'est marrant, Et il est dit qu'au bout de ces 7 jours de noces, on pourrait dire, entre eux, ils étaient eux ensemble, ils revenaient vers les amis de l'épouse. Et là, il faut se souvenir du texte de Matthieu 25, oui, la parabole des 10 vierges, qui est souvent tordue. Parce que dans la parole des 10 vierges, il est dit que l'époux va rejoindre les amis de l'épouse, mais ses amis de l'époux, en fait, c'est les saints de l'Ancien Testament. C'est tous ceux qui ne font pas partie de l'Église. Il y a plusieurs versions, syriaque et d'autres, la Vulgate, je crois, qui disent que l'époux et l'épouse vont rejoindre les amis de l'époux. Ça veut dire que la parabole des 10 vierges dit tout simplement que Jésus et l'Église vont rejoindre les saints de l'Ancien Testament pour convoler en os. Et en fait, cette histoire du mariage, on va dire juif, correspond tout simplement à ce qui va se passer dans la tribulation. L'époux, il va venir à un moment qu'on ne sait pas, parce que moi je ne sais pas la date, comme on m'a demandé hier, il n'y a pas de date. Il va venir un jour enlever l'Église, on va convoler en os pendant, je ne sais pas si c'est 7 ans, mais en tout cas il y a les noces de l'agneau, et puis au moment où Jésus a décidé, ou le Père a décidé, il reviendra et va rejoindre les amis de l'époux. Et ça c'est un très bon argument aussi pour militer pour le pré-tribulationnisme. Donc vous voyez, il y a un peu de poésie aussi dans la tribulation, on va dire, quelque part. Et puis, un avant-dernier argument, hein, parce qu'on va quand même un peu s'arrêter, hein, c'est un peu compliqué, je sais, l'imminence du retour de Jésus. Si on dit que Jésus, enfin, l'Église va être enlevée, et c'est quelque chose d'imminent, ça veut dire que je ne sais pas, je dois me tenir prêt. Mais si l'Église devait être enlevée à la fin de la tribulation, bah écoutez, on va à peu près voir au moment où commence la tribulation, et j'ai plus qu'à compter 7 ans. C'est pas très imminent, en fait. Je sais à peu près quand, finalement, l'Église va être enlevée. Et donc, ça ne tient pas encore une fois à l'argument. Hein. Nous ne savons absolument pas quand l'Église sera enlevée. Par contre, si elle est vraiment enlevée à la fin de la tribulation, j'ai le droit de compter 7 ans, et je sais qu'à peu près quand Jésus va revenir, donc je peux me préparer, etc. Mais l'argument ne tient pas non plus. Et puis, Apocalypse 4, verset 2, il est dit « Jean est ravi par l'Esprit au ciel ». Alors certains voient à ce moment-là, au début des commencements des événements qui vont avoir lieu dans la tribulation, que ce Jean qui monte, qui est ravi au ciel, c'est un peu une métaphore de l'Église qui est enlevée aussi avant que commencent les événements de la tribulation. À apprendre par cœur, évidemment, parce qu'il y a interrogation écrite tout à l'heure. On est d'accord ? Non. Je sais que c'est ardu, je sais que c'est pas simple, il faut avoir vraiment lu l'Apocalypse, mais pour moi, j'irai pas brûler sur un bûcher pour ça. Honnêtement, non. J'ai beaucoup d'amour pour les autres qui pensent autrement. Il faut être honnête, hein. J'ai dit, j'essaie d'être humble et être honnête. Mais à un moment, en tant que pasteur, il faut que je réponde aussi à des questions. Et pour moi, j'ai plus d'arguments qui vont aller vers un pré-tribulationnisme qu'un post- ou un mi-tribulationnisme. Donc il faut aussi, et puis ça c'est qu'une partie de ma conviction, on est bien d'accord, il faut beaucoup plus étudier. Mais j'ai plus d'arguments, en tout cas, mais vous le voyez, qui sont pour que l'Église soit enlevée avant la tribulation qu'au milieu ou qu'à la fin de la tribulation. On va faire nos petites réflexions et on va arrêter là. Le problème, c'est dans tout ça, on peut se dire, oh là là, c'est compliqué tout ça, hein, on va laisser ça de côté, on laisse ça au pasteur. Mais en tant que pasteur, ben, je dois faire un choix à un moment, parce qu'on va me poser des questions, et surtout parce que, imaginez que je suis le pasteur et que je dois traverser la tribulation. Comment je vais préparer mon église ? Eh, il faut se réveiller, il faut vivre vraiment sa foi, vous allez souffrir, les gars. Vous allez souffrir. Non, mais c'est ça. C'est ça, préparer son église à traverser la tribulation. Par contre, si je dis qu'on est enlevé avant, je dis, vous avez une consolation. Vous n'allez pas traverser cela et le Seigneur va nous prendre juste avant que tous ces événements commencent. Vous voyez comment je vais prêcher de manière différente ? Donc il faut quand même faire à un moment un choix, parce que ma prédication, ma consolation, mon aide dans l'église pratique va être complètement différente. Et c'est important à un moment, surtout pour les pasteurs, hein, il faut faire un choix. Le choix concernant l'enlèvement de l'église aussi a des terribles conséquences sur la doctrine et la prédication, comme j'ai dit, et sur les agissements des chrétiens. Si on dit aux chrétiens, vous allez traverser la tribulation, il faut savoir qu'à un moment vous ne pourrez plus vendre ou acheter, avec le signe de la bête, hein. Vous n'avez plus de carte bleue. Vous imaginez si vous n'avez plus de carte bleue ? On coupe votre compte bancaire. Fini. Comment vous faites ? Alors si on le sait, on a de l'argent de côté. On va mettre des victuailles de côté. On se prépare. Puis bon, comme certains, vous l'avez dit tout à l'heure, on se retrouve avec tout ça pour rien. Enfin. Mais l'implication pratique va être totalement différente entre celui qui va être enlevé avant et celui qui doit traverser la tribulation. On est bien d'accord. Et donc forcément, moi en tant que pasteur, ou moi en tant que chrétien, voilà, je vais me préparer d'une manière ou d'une autre. Ne vous inquiétez pas, on n'aura pas besoin de carte bleue dans le ciel puisqu'on sera enlevé avant, normalement. La plus grande richesse est évidemment là-haut, pas sur terre. Et puis une troisième réflexion, même si le pré-tribulationnisme donne le sentiment que finalement nos désirs dictent la doctrine, parce que honnêtement, vous voulez traverser la tribulation ? C'est vos sentiments, ça. C'est des sentiments. Et on a l'impression des fois, et on nous fait le reproche de dire, mais vous n'avez pas envie, donc forcément vos sentiments vont dicter, vont construire votre doctrine. Alors on a vu tous les arguments, on est bien d'accord, c'est pas du sentiment, c'est vraiment biblique, hein. Alors, ça donne l'impression. Mais cette théorie reste néanmoins le plus correct, comme j'ai dit, compte tenu de tous les arguments beaucoup plus solides que ceux des autres, hein. Alors il y aurait beaucoup de batailles de mots à faire là-dedans, mais en même temps, comme je dis, il faut garder de l'humilité entre chrétiens. Je respecte absolument la position des autres frères. Je les aime. J'aime beaucoup discuter, moi, avec les gens, mais sans me disputer. Parce que souvent, ça se dispute plutôt que de discuter. Si on pouvait avoir le temps, des fois, de s'asseoir, de parler entre nous, de discuter tout simplement, mais pas juste avec nos sentiments, nos pensées, avec une vraie connaissance de la Bible aussi. Hein. Je disais, il faut lire la Bible, il faut lire la Bible, il faut lire la Bible pour la connaître. À ce moment-là, on peut discuter avec les uns et les autres, et on peut partager. Vous savez, moi j'ai étudié l'eschatologie pendant près de 10 ans. J'ai passé un an avec une église, avec des gens qui avaient d'autres positions, d'autres idées, qui m'ont apporté énormément, et c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant que s'arrêter, discuter sans se disputer. Alors, j'espère qu'un jour vous aurez l'occasion de le faire aussi et de prendre le temps de lire toute la Bible, d'aller chercher là tous les éléments eschatologiques, de les mettre un petit peu en ordre et de trouver votre conviction. Je ne veux pas que vous ayez ma conviction ce soir parce que je l'ai dit, ça serait stupide. Mais c'est une recherche, c'est une démarche dans le temps, qui prend beaucoup de temps. Ça sera peut-être fait dans l'église de nouveau un jour avec Adrien ou avec d'autres. Mais il ne faut pas se dire non plus que « Oh, c'est pas important, c'est trop compliqué ». On l'avait vu hier, ça a des ramifications dans toutes les autres doctrines. Que ce soit dans la doctrine de Jésus, que ce soit dans la doctrine de la Bible, que ce soit dans toutes les doctrines, Saint-Esprit, etc. À un moment ou un autre, je suis confronté à l'eschatologie. Il faut donc quand même au moins un peu l'étudier, sans une grande connaissance, tout ça, c'est très difficile d'avoir dans la tête, je le reconnais, mais au moins avoir touché un peu du doigt l'eschatologie. Et je termine avec ce verset de 1 Jean 4:21. Nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et on n'est pas là pour s'élever vers l'autre qui a notre position, on est là pour l'aimer. Et l'amour, si je l'ai pour le frère, je l'ai aussi pour Dieu. Et que le Seigneur nous aide à ne pas nous disputer, mais plutôt à discuter, à prendre le temps de se poser, etc. Et on va prier pour terminer. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Et comme nous l'avons vu hier, nous voyons que beaucoup d'événements se sont réalisés littéralement et d'autres qui ne se sont pas réalisés vont aussi s'accomplir de façon littérale. Et deux grands événements dans ce monde, que sont l'enlèvement de l'Église et ton retour, sont bien indiqués dans la Bible. Et Seigneur, nous voulons attendre ces événements avec beaucoup de joie, nous, en tant que chrétiens, que nous puissions nous préparer à cet enlèvement en vivant comme tu nous le demandes, saintement, cette vie de sanctification, pour que nous n'ayons pas à rougir au moment où tu nous enlèveras. Et Seigneur, nous prions aussi pour ce monde qui aujourd'hui te refuse et qui devra subir ta colère, qui devra subir ton jugement, qui finalement devra fléchir le genou devant toi. Et quelle honte, Seigneur, pour eux. Mais en attendant, comme nous l'avons vu hier, tu es patient, Seigneur. Tu es patient avec chacun d'entre nous. Et peut-être ce soir, quelqu'un ne te connaît pas ou a entendu parler de toi, mais n'a pas encore fait le pas avec toi. Et je vais te prier que, même si on parle d'eschatologie, tu lui montres que tu l'aimes, que tu as envie de changer sa vie, de le transformer, évidemment, de le prendre avec toi le jour où tu reviendras. En tout cas, bénis chacun d'entre nous, Seigneur, que tu nous fasses réfléchir, que tu nous donnes aussi envie d'aller davantage étudier ta parole, parce que, comme nous l'avons vu, elle est extrêmement riche et merveilleuse. Pour ta gloire, Seigneur, et en Jésus-Christ. Amen.